Présente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Bien manger, bien dormir, bouger suffisamment, éviter certains excès. Des règles évidentes pour protéger sa santé, mais en fonction de notre lieu de vie, une autre condition contribue directement à notre bien-être. Ce facteur, c'est la pollution. La qualité de l'air est aussi étonnant que cela puisse paraître. Ce n'est que depuis les années 90 en France que l'on considère que l'air que nous respirons est déterminant pour la santé publique. Et pourtant, selon l'OMS, cette pollution atmosphérique est à l'origine du décès de 3 millions de personnes chaque année. Et en France, elle provoque 48 000 morts prématurées. Particules fines, allergènes, métaux lourds, ozone. Les habitants des grandes villes se sont familiarisés avec les alertes pour pics de pollution. Et c'est cette pollution excessive qui pousse la Commission européenne à convoquer les ministres de l'environnement de 9 pays, dont la France. Ce sera mardi prochain à Bruxelles. Ces pays qui dépassent les limites d'émissions et risquent donc des mesures d'infraction pour non-respect des normes sur la qualité de l'air. Santé respiratoire et environnement, c'est précisément l'un des thèmes retenus ce week-end à Lyon pour le 22e congrès de pneumologie de langue française, événement auquel vous participez, professeur Bruno Housset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fondation du Souffle, chef du service de pneumologie au centre hospitalier intercommunal de Créteil dans le Val-de-Marne, événement qui se tient en votre présence aussi, professeur Jean-Marie Kayembe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa en RDC, doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo. Et pour nous joindre, posez vos questions. Le numéro de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75.
Bonjour, il est 6h du matin et nous sommes le 6 décembre. Voici les nouvelles. Londres a été paralysé par un épais brouillard tombé cette nuit. D'importants embouteillages se sont formés sur les artères principales et, d'après nos informations, des automobilistes ont abandonné leurs véhicules et ont poursuivi leur chemin à pied. On s'attend à ce que l'aéroport de Londres soit fermé.
Quand ?
Les services météorologiques déclarent que l'anticyclone, qui persiste sur Londres, est responsable de cette situation. Les fumées des cheminées de la capitale restent bloquées au niveau des rues, ce qui ne fait qu'aggraver ce smog. En l'absence de vent, cette situation va se poursuivre. Soyez prudents, c'est une véritable purée de pois là-dehors.
Un extrait de la série télévisée The Crown, le règne d'Elisabeth II d'Angleterre, épisode de pollution, on peut le dire, historique. 1952, le grand smog de Londres, 4 jours d'épouvantable pollution atmosphérique, terrible bilan, 100 000 malades, 12 000 morts prématurées. Un retour en arrière, professeur Bruno Housset, car ce grand smog de Londres a permis, en fait, pour la toute première fois dans l'histoire, d'établir une relation directe entre la santé et la qualité de l'air.
Absolument, c'était un drame. Il y a eu entre 4000 et 12000 morts effectivement lors de cet épisode, mais avec une pollution qui n'a rien à voir avec notre pollution actuelle. C'était dans la nature de la pollution, c'était surtout une pollution avec de l'acide sulfurique qui était du soufre, et puis d'autre part la quantité de particules, c'était de l'ordre de 3000 microgrammes par mètre cube. C'était,
on voyait pas à 10 mètres. Et puis c'était donc production de fumée industrielle et bois de chauffage essentiellement.
Absolument. Et donc ça, c'était vraiment dramatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail qui a été publié en 2016, donc oui, très récemment, sur cet épisode, et qui montre qu'à la suite de cet épisode, les enfants qui avaient moins de 1 an lors de l'épisode, qui avaient donc été exposés à ce smog, avaient plus d'asthme que les autres. Donc à peu près 20% d'asthme dans l'enfance. Donc il y avait des conséquences à long terme de ce type d'épisode qui sont importants et qu'on ne connaît pas encore suffisamment.
On parle du 20e siècle, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, ce lien justement, professeur Bruno Housset, entre santé respiratoire et environnement, est-ce qu'il fait encore débat? Est-ce qu'il y a encore des sceptiques là-dessus ou c'est admis par tout le monde?
Il y a toujours des sceptiques, vous savez, même sur le réchauffement climatique, il y a des gens qui n'y croient pas.
Et qui ont des responsabilités importantes.
Je ne parlerai pas de président d'un pays outre-Atlantique qui nous conduit vers les difficultés de façon évidente. Donc je crois qu'il n'y a vraiment pas de discussion entre le lien entre la pollution et la santé respiratoire. Maintenant, c'est quelque chose d'acquis. On va de plus en plus vers des connaissances plus fines parce qu'on a des études épidémiologiques qui sont plus puissantes, qui permettent de suivre des corps de plusieurs millions de personnes sur plusieurs années, une dizaine d'années, et ça nous donne des informations qu'on n'aurait jamais pu avoir sur quelques cohortes de quelques patients.
Alors, professeur Jean-Marie Kayembe, justement, on va parler de ces éléments, de ces composants de l'air que l'on respire et qui peuvent se révéler toxiques pour la santé. Il y a de nombreux éléments, en fait.
Effectivement. Et cela, le professeur Rousset vient de le dire, est d'autant plus vrai pour l'Afrique où, aujourd'hui, nous vivons une industrialisation, laissez-moi l'appeler, sauvage, en ce sens qu'elle n'est régie par aucune norme. Étant donné qu'on n'assiste pas à des morts massives encore, mais qu'est-ce que nous aurons dans 20 ans? Le plastique qui est brûlé en plein centre, en plein cœur de certaines villes, etc., que la population peut humer, qu'est-ce que cela va produire dans une vingtaine, quarantaine d'années? Aujourd'hui, nous allons assister, c'est vrai, à une recrudescence de maladies respiratoires inflammatoires. J'ai cité l'asthme et la BPCO éventuellement.
Alors justement, les différentes composantes toxiques, on parle très souvent des particules fines. De quoi s'agit-il exactement, professeur Rousset?
Particules fines parce qu'elles ont une petite taille. Donc en fait, on les classe en fonction de leur taille. On parle de PM10 quand le diamètre est inférieur à 10 microns, de PM2,5 quand il est inférieur à 2,5 microns et de nanoparticules quand il est inférieur à 100 nanomètres. Et le point important, c'est que on évolue progressivement de PM10 vers les PM2,5 et maintenant vers les nanomètres, les nanoparticules. Et on se rend compte que ce sont ces particules les plus fines qui passent dans le sang. Et donc il y a un travail récent qui a été fait chez des sujets sains et qui montre qu'effectivement les nanoparticules passent dans le sang et on peut les retrouver jusqu'à 3 mois après. Et donc c'est pas nanoparticules qui peuvent engendrer une inflammation dans le corps d'une façon plus générale et provoquer des complications cardiovasculaires.
Et ces particules, elles sont toxiques en elles-mêmes, mais en plus elle véhicule d'autres choses dans l'organisme humain, c'est bien ça?
Exactement. Et donc le point, c'est que jusqu'à maintenant, on exprimait ces particules, la pollution en microgrammes par mètre cube, ce qui est une façon très grossière d'apprécier cette pollution. Maintenant, on s'oriente plutôt vers la qualité de ces particules. Quel est leur pouvoir oxydant? Quelle est la nature des métaux lourds qui sont associés? Quelle est la nature des allergènes qui peuvent être portés par ces particules? Donc vous voyez qu'il faut aller au-delà de cette quantification en microgrammes par mètre cube, il faut davantage s'intéresser à la nature de ces particules. C'est tout le travail qui nous attend pour les années qui viennent.
Le corps les absorbe. Est-ce que l'on sait comment ces particules, si elles sont ou ne sont pas, éliminées par l'organisme?
Elles sont éliminées par l'organisme, mais de façon extrêmement progressive. Pour ces nanoparticules qui étaient données à des sujets sains, les nanoparticules d'or qui ne sont pas toxiques, en fait, elles sont probablement accumulées dans le foie, puisqu'on en retrouve dans les urines jusqu'à 3 mois après. Donc, elles sont éliminées progressivement. Il y a un autre travail qui a montré des nanoparticules aussi dans le cerveau, qui s'accumulaient avec le temps. Alors, on ne sait pas très bien la voie, ou bien c'est une voie systémique, ça passe à travers les voies aériennes et ça passe dans le sang, ou bien ça peut passer par le nez, éventuellement même par le système olfactif qui est en contact direct avec le cerveau.
Alors il y a ces polluants qui entrent en contact avec l'organisme, professeur Jean-Marie Kayembe. Un certain nombre de ces polluants sont d'ailleurs d'origine naturelle, là pas forcément d'intervention humaine, quoique on peut penser au secteur minier, là c'est l'intervention humaine, mais c'est la nature. Il y a aussi simplement des terrains, des minéraux qui sont sur les routes, il y a aussi le sable du désert, il y a plein de choses, aussi les cendres volcaniques, tout ça, ça fait de la pollution.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, nos pays africains, je parlais de l'industrialisation à outrance, mais les mines, c'est dans toute l'Afrique. Elles suscitent une prédation extraordinaire et les mineurs sont pour la plupart pas du tout protégés. Ils y vont, le nez, tout à fait à l'air, j'allais dire à l'air libre, mais disons à mine libre. Ils inhalent des particules qui, comme vient de le dire le professeur Rousset, peuvent passer en fonction de leur dimension dans la circulation systémique. Mais il y en a qui perturbent même déjà le fonctionnement de toutes les cellules. Il y a des cellules qui les engouffrent, comme les macrophages, etc., qui, lorsqu'ils sont chargés de poussière, etc., perdent leur pouvoir de lutter, de défendre l'organisme contre les infections.
Et vous venez d'un pays, la République démocratique du Congo, où le secteur minier est très important, avec ses pollutions, en particulier dans la zone de Lubumbashi, j'ai lu des articles là-dessus.
Absolument.
C'est une vraie question, professeur Jean-Marie Kayembe, vraie question de santé publique là-bas.
Absolument, parce que Lubumbashi, nous avons une équipe de l'université de Kinshasa et des collègues qui sont au Japon, qui ont entrepris de nombreuses études sur les pneumoconioses dans les mines de Lubumbashi. C'est un réel problème de santé publique. Et là, véritable sonnette d'alarme. Si l'on pense à protéger la population, il y a des taxes, par exemple, à imposer à ces pollueurs impénitents qui le font, mais bien sûr pour le fric que ça leur apporte.
Et qui pourraient monter des centres de santé sur les lieux d'exploitation minière qui leur apportent des milliards.
Absolument. Apporter l'information, contribuer à l'assainissement de l'environnement, ça, ils peuvent le faire. Ils ont de l'argent pour ça.
Professeur Bruno Housset, on a dépeint le schéma des polluants. Maintenant, on va s'intéresser, quand vous aurez repris votre souffle, justement aux troubles ou maladies provoquées par l'exposition à la pollution atmosphérique, sans rentrer véritablement dans une liste, quelles sont les principales pathologies provoquées par ce fait de respirer un air pollué ?
Provoquer, c'est difficile de dire que c'est provoqué. En fait, ce sont des maladies qui préexistent et qui peuvent être accentuées, exacerbées avec la pollution. Et ces maladies, ce sont des maladies respiratoires chroniques comme la BPCO ou l'asthme, qui peuvent éventuellement avoir des espèces de flambées.
Bronchite obstructive, on va détailler.
BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Voilà.
Je suis d'accord, c'est pas très facile. Et donc, un des points que j'aimerais souligner, c'est que c'est difficile de faire le lien entre ces maladies et la pollution. Parce que, par exemple, en hiver, vous allez avoir des infections virales qui sont fréquentes, qui vont vous donner des bronchites, qui vont donner des exacerbations de ces maladies. Et donc, il n'est pas marqué sur votre front que vous faites une bronchite à cause de la pollution. Et souvent, il y a une coïncidence entre les pics de pollution et les infections virales. Donc, faire la part des choses est difficile quand on est face à un individu. Par contre, c'est le travail des épidémiologistes que d'identifier les cas qui sont en rapport avec la pollution, qui sont en excès par rapport à ce qu'on pourrait attendre.
On se retrouve dans un instant. On va donner la parole tout de suite aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce premier auditeur qui nous appelle du Cameroun, c'est Diderot en ligne de Loumé. Bonjour Diderot.
Bonjour Caroline, bonjour aux invités. Bonjour.
On vous écoute Diderot, votre témoignage.
D'accord, la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, est un véritable enfer pour les populations à cause de la pollution, effectivement. Pollution atmosphérique et pollution sonore. Je suis arrivé à Douala, j'avais une sinusite que je traînais depuis l'enfance et à chaque fois que je passe du temps là, elle, mon état se détériore davantage. Donc, il y a des moments où j'arrive pas à respirer, j'étouffe presque. Donc l'air que nous respirons à Douala n'est pas vivable du tout.
Et Diderot, est-ce que vous portez mieux lorsque vous quittez justement la grande ville ?
Effectivement, comme actuellement, je suis à 80 km de Douala, je n'ai pas de problème de respiration, je suis à l'aise, puisque je suis presque en forêt, là, il n'y a aucun souci. Mais dès que je vais à Douala, deux jours après, c'est le calvaire.
Un témoignage donc de Diderot. Merci beaucoup en ligne du Cameroun. Professeur Jean-Marie Kayembe, il fait le lien direct entre son cadre de vie et sa santé respiratoire.
Le professeur Housset disait tout à l'heure qu'on ne sait pas avoir un lien de causalité évident. Mais ce qu'on sait, qui est prouvé, en voici une preuve supplémentaire, c'est l'effet sur l'exacerbation des maladies existantes. Il a une sinusite, il parle de respiration difficile, la rhino-sinusite et l'asthme, il y a une association évidente et fréquente d'ailleurs. Voilà un cas qui prouve que l'environnement peut jouer un rôle sur la santé respiratoire d'un individu. Et en changeant de milieu, en allant à un lieu un petit peu plus sain, il se sent mieux. C'est la preuve.
Professeur Bruno Housset, vous vouliez réagir?
Oui, juste un point, c'est le délai en fait. Il nous dit bien que quand c'est deux, trois jours après de son arrivée dans la ville qui est gêné. Et c'est ça aussi qui est important à souligner, c'est qu'entre le pic et la survenue des symptômes, il peut y avoir 1 à 2 jours. C'est particulièrement vrai pour les infections respiratoires, qui sont une autre complication de l'exposition aux polluants. Et cette infection respiratoire, on ne la voit que 2 à 3 jours après. Donc c'est pas au moment du pic que ça se produit. Donc, complications supplémentaires pour identifier la cause.
Très bien, on va prendre un autre auditeur, toujours le Cameroun. C'est Jean-Emmanuel, il est en ligne d'EDA. Bonjour Jean-Emmanuel.
Bonjour Claire. Bonjour,
c'est Caroline Paré qui vous écoute et on écoute justement votre témoignage, Jean-Emmanuel.
Oui, moi je suis à Ébéa et moi je fais le témoignage dans la pollution ici. Dans mon quartier, j'ai mon voisin qui fait fumer du poisson avec des matières en plastique qu'elle brûle pour obtenir de la fumée toxique juste pour noircir du poisson. Les poissons, on l'appelle l'amoureux chinois, le maquereau. Et ça, ils vont vendre au marché. Moi, je trouve pas ça bon pour la consommation de pour la population. Et également, j'ai ma maman également qui fait également de la cuisine avec des matières plastiques qu'elle récupère dans mon pressing tout le temps pour aller attiser le feu, pour pouvoir obtenir de la flamme pour faire de la cuisine. Et avec, elle brûle également des bouteilles de plastique. Et là, ça nous empêche de respirer. Donc, c'est vraiment très toxique pour nous. Et moi également, qui est dans le domaine du pressing, j'ai l'habitude de manipuler des produits, des entretiens du linge qui parfois dégagent des odeurs toxiques qui, bien après, j'ai souvent mal à la poitrine et autres, qui me demandent souvent parfois de prendre des jours de repos pour pouvoir récupérer ma respiration normale.
Jean-Emmanuel, je vais résumer parce que la qualité de la ligne n'était pas vraiment excellente. Merci infiniment de nous avoir appelé du Cameroun. Une voisine qui fait fumer du poisson avec de la matière plastique. Votre maman, qui elle aussi fait la cuisine en faisant brûler du plastique, qui n'est pas vraiment un combustible recommandé à l'intérieur. En tout cas, elle récupère différents matériaux, elle fait brûler ça. Et puis, autre problématique, c'est votre lieu de travail, pressing, là aussi avec des produits, on peut dire des produits chimiques, c'est ce qui est utilisé notamment pour le nettoyage à sec, entre autres. Professeur Bruno Housset, on peut dire vraiment que Jean-Emmanuel est très exposé aux polluants.
Oui, et son histoire illustre bien le fait qu'on est exposé à une soupe de polluants et que c'est très variable au cours de la journée. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est d'identifier les sources de polluants auxquelles on est exposé comme individu. D'où la notion d'exposome. Parce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire.
Non,
l'exposome, c'est un concept. C'est en fait tout ce à quoi vous avez été exposé depuis votre conception jusqu'à maintenant.
Et donc, c'est un capital de pollution.
De pollution. Et en fait, c'est la pollution, bien sûr, que vous pouvez inhaler, que vous pouvez ingérer. Et c'est aussi toute la pollution liée au bruit, par exemple, qui était évoquée aussi tout à l'heure. Et donc, c'est un concept qui permet d'aborder, en fait, la physiopathologie, donc les explications sur les manifestations chez l'homme, qui sont intéressantes.
Mais ce que nous dit Jean-Emmanuel, là, professeur Housset, il y a une double problématique. Il y a l'action personnelle de sa maman, qui va prendre peut-être faute d'information ses produits comme combustible. Et puis, il y a malgré tout l'entreprise, peut-être une absence de réglementation sur les aérations, justement pour respirer sur son lieu de travail un meilleur air. Et puis, globalement, un défaut d'information du grand public sur ces polluants. Vous vouliez réagir, Jean-Marie Kayembe?
Oui, pour dire justement que ça montre l'importance de la sensibilisation et de l'information. La Bible catholique soutient notamment que mon peuple périt faute de connaissances. Eh bien, il y en a qui ne savent pas. Nous avons la possibilité, l'opportunité en tant que médecin de savoir. Mais le gros de la population ne sait même pas que brûler le plastique peut causer du tort. Ça génère des produits qui sont nuisibles pour la santé respiratoire. Ne pas le savoir vous expose à continuer de le faire parce que parfois on n'a pas de combustible pour allumer rapidement son feu, etc. Et le feu de brousse, il en est de même. Ce feu de brousse, bien sûr, il est au grand air, il est à l'extérieur. Mais cette fumée extérieure contamine également l'intérieur des cases qui ne sont pas généralement bien ventilées.
Il peut y avoir les feux accidentels et puis les brûlis là qui sont provoqués par les agriculteurs.
Absolument. Et qui sont transportés dans l'air en fonction des dimensions et qui vont loin.
Professeur Bruno Husset, une réaction assez brève parce que
Réaction brève, c'est qu'on va aussi augmenter les incendies de forêt. Donc les feux de forêt augmentent de façon globale dans le monde. Et c'est une cause d'exposition à des polluants et des polluants
toxiques. Et du réchauffement climatique aussi, question très importante. Beaucoup de choses sont liées en matière d'environnement. On va en reparler en deuxième partie d'émission. Vous restez avec nous, professeur Jean-Marie Kayembe, professeur Bruno Housset, dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité. On se retrouve toujours pour parler de l'impact de la pollution atmosphérique aujourd'hui sur la santé respiratoire notamment. Et vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité santé,
Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée à l'impact de la pollution sur la santé respiratoire. Toujours avec nous en studio, nos deux invités qui ce week-end participent dans la ville de Lyon au 22e congrès de pneumologie de langue française, avec donc au nombre des thématiques retenues, santé, respiratoire et environnement. On vous retrouve donc professeur Jean-Marie Kayembe, chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa en RDC, doyen de la faculté de médecine de Kinshasa, professeur Bruno Housset, président de la Fondation du Souffle, chef du service de pneumologie au CHI de Créteil dans le Val-de-Marne. Professeur Housset, face à cette pollution, il y a des réponses des pouvoirs publics pour essayer de limiter les émissions de polluants, appliquer aussi des mesures de prévention quand il y a des alertes pollution pour certaines populations à risque. Et vous, en tant que médecin de pneumologue donc, est-ce que vous donnez des conseils particuliers à vos patients ?
Le premier conseil, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure, c'était s'informer. Donc il y a maintenant des possibilités de s'informer, et partout dans le monde on peut avoir une information sur la qualité de l'air, il y a des applications qui existent, et donc la première chose c'est de savoir effectivement quel est l'état de la pollution, en sachant qu'on va aller, on va progressivement avoir accès à des capteurs individuels qui vous permettront d'avoir personnellement pour un individu donné ce à quoi vous êtes exposé. Donc ça va être un progrès peut-être pour certains patients. Donc ça c'est un premier point, s'informer. D'autre part, tous les patients qui ont une maladie chronique, il faut leur dire qu'il faut prendre leur traitement et le prendre de façon régulière. On sait que dans l'asthme, la BPCO, l'adhérence au traitement est faible. C'est-à-dire que les patients, on pense que c'est moins de 50%. C'est l'OMS qui dit ça, moins de 50%.
Ça veut dire que quand on n'est pas en crise, on laisse le médicament.
Souvent, ouais. Et donc en fait, il faut leur dire qu'il faut vraiment prendre de façon très régulière leur traitement, voire le majorer quand on a des problèmes respiratoires ou des problèmes d'insuffisance cardiaque. L'autre point, c'est aussi d'aérer ces locaux. Parce que même s'il y a une pollution extérieure, il faut aérer les locaux. Vous en avez parlé, mais la pollution intérieure est en général plus importante. Il faut aérer. Alors, aérer au moment où la pollution est la plus basse. Et je reviens au premier point, qui est de s'informer sur la qualité de l'air en fonction du temps.
Mais quand on est dans des bureaux comme ici à RFI, impossible d'aérer, tout est clos, tout est calfeutré.
C'est pas exactement calfeutré, c'est ventilé. Vous avez une ventilation avec un renouvellement d'air. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que la ventilation mécanique contrôlée, qui va réguler, en fait, le renouvellement d'air dans les locaux, qui sont des locaux qui sont de plus en plus clos, parce que, justement, des locaux basse énergie, des bâtiments basse énergie, qui vont éviter de déperdition d'énergie, eh bien, le vrai enjeu, c'est la qualité de l'air intérieur et le système de ventilation mécanique contrôlé. Et ça, il y a des progrès qui ont été faits. Évidemment, ça coûte de l'argent. Mais c'est important, et on a montré par exemple au Canada que le système de ventilation mécanique contrôlée pouvait avoir un effet sur l'asthme chez l'enfant. Ils ont comparé en fait des ventilations mécaniques contrôlées modernes à des VMC anciennes, et ils ont montré que quand il y avait une VMC moderne, il y avait une diminution du recours aux soins pour les enfants asthmatiques. Alors, donc c'est vraiment un sujet.
La parole justement à un auditeur qui souffre d'asthme, c'est Elvis. Il est en ligne du Togo, de la capitale Lomé. Bonjour Elvis.
Bonjour Caroline, bonjour les invités.
Vous vouliez apporter votre témoignage, une question aussi dans le cadre de Priorité Santé, on vous écoute.
Oui, en fait, moi j'ai passé 6 années de mes études en campagne, dans 2 régions différentes. Mais il s'est fait qu'à chaque fois quand je devais aller à l'internat, mes parents me remettaient des comprimés chirales que j'utilisais en cas de crise. Mais pendant ces 6 années, je me suis rendu compte que je retourne toujours à Cotonou avec des comprimés tels comme les jardins de nuit, parce que j'ai jamais de crise en campagne. Mais dès que je rentre à Cotonou, dans la semaine qui suit, systématiquement, il faut que je commence à les utiliser. Autrement, il y a la crise qui commence. Donc, j'ai compris quand même qu'il y a forcément un lien avec la pollution. Bon, étant asthmatique quand même depuis mon bas âge, je me demande si aujourd'hui mes enfants vont également en souffrir, puisque mon père en souffre.
Juste une question, Elvis, les cachets que vous preniez, c'est quoi ? C'est des antihistaminiques ou des corticoïdes ? C'est-à-dire que c'est pour la prévention ou pour traiter le mal ?
Non, c'est pas pour la prévention, c'est souvent quand j'avais la crise que je prenais le comprimé en question.
Alors,
ça fait même plus de 10 années que je ne prends plus ça, maintenant je suis beaucoup plus sur les aérosols Ventoline.
Ventoline, donc, pour professeur Jean-Marie Kayembe, expliquer à nos auditeurs l'effet de la ventoline sur la respiration.
La ventoline est un médicament bronchodilatateur. Ça signifie il ouvre la bronche, parce que la bronche de l'asthmatique a tendance à se refermer très rapidement et régulièrement. C'est ce qui rend la respiration difficile. Mais la ventoline en elle-même est un traitement de la crise d'asthme, pas un traitement d'entretien de l'asthme. Monsieur Elvis pose un problème réel et courant dans toute l'Afrique, qui est celui de l'absence d'assurance maladie, de prise en charge et le manque d'information également. Le patient pense, même l'asthmatique, que c'est comme le paludisme, qu'il faut soigner rapidement parce que le paludisme, vous avez des antipaludiques, vous avez un petit peu d'antipyrétiques, ça peut aller. Mais l'asthme, même en dehors de crise, il y a un traitement d'entretien qui doit pouvoir être administré au patient et le patient doit être informé. Les corticoïdes ne devraient pas être utilisés sur des très longues périodes eu égard aux effets secondaires importants qu'ils ont. Mais là aussi, et encore une fois, les patients méritent vraiment d'être informés et bien informés.
Vous vouliez parler, professeur Rousset, réagir à votre tour.
Oui, comme dit le professeur KMB, l'important c'est l'accès en fait aux médicaments. Et vous savez qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a 47 à 48 dispositifs d'inhalation qui sont disponibles. Et donc si on n'explique pas aux gens comment il faut faire pour le prendre, et quelle est la justification de la prise, c'est-à-dire effectivement un traitement long cours, on est à peu près sûr que ça sera pas pris, ou que ça sera mal pris, et donc inefficace. Et donc c'est vraiment un point extrêmement important d'éducation thérapeutique. On peut faire tous les progrès qu'on veut, avec les molécules qu'on veut, si le médicament ne va pas au bon endroit, ça peut pas fonctionner.
S'il est mal pris, professeur Jean-Marie Kayembe, à Kinshasa, il y a eu des tests hein, dans la capitale, ils ont montré qu'il y avait régulièrement des dépassements de seuil de pollution, hein. C'est ce qu'a dit en tout cas l'OMS. Est-ce que ça se ressent sur la santé des Quinois? Est-ce que vous le voyez, vous, lors de vos consultations?
Absolument. Je dois vous avouer que nous avons de plus en plus de grosses consultations de pneumologie actuellement, où des patients asthmatiques déséquilibrés, déstabilisés, étant donné qu'ils n'ont pas toujours accès à toutes les bonnes molécules d'entretien. Je pense ici à un composé de ventoline retard et d'un anti-inflammatoire local qui coûte au bas mot, je dirais, l'équivalent de entre 10 et 15 euros.
C'est énorme.
Il faut regarder le salaire des gens. Et ça fait un mois éventuellement de traitement. En tout cas, c'est généralement pas facile.
Pour compléter et bien conclure avec la question que nous a posée Elvis tout à l'heure, il est asthmatique, maladie chronique. Il posait la question, professeur Rousset, pour sa descendance, pour ses enfants, sur le caractère héréditaire de la maladie. Quand on est asthmatique, est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières pour sa famille ?
Pas vraiment. Le point, c'est qu'il y a des interactions entre les gènes et l'environnement. Et on sait qu'effectivement, dans certains environnements, vous allez exprimer certains gènes et donc exprimer des gènes qui vont vous faire siffler et avoir de l'asthme. Donc, c'est cette interaction entre les deux. Donc a priori, il y a des notions d'asthme familiaux. Hein. On sait que ça peut se transmettre...
Avec des terrains allergiques.
Et l'autre aspect des choses, c'est que ça peut être... On sait par exemple que la femme enceinte exposée à la pollution peut, à plus grande fréquence, des enfants asthmatiques. Et on a montré qu'il y avait des modifications épigénétiques. C'est-à-dire que c'est pas des modifications de l'ADN lui-même, mais c'est des modifications qui sont autour de l'ADN et qui vont modifier l'expression des gènes. Et ces modifications épigénétiques peuvent aussi être transmises. Donc, le point important, c'est de pas être exposé à la pollution et vous n'avez pas de mesures particulières, sauf à essayer de trouver un environnement le moins pollué possible pour vos enfants.
Une question qui peut paraître... un petit peu anachronique, quand on voit quelqu'un faire son footing ou faire son jogging, selon la génération à laquelle on appartient, à côté d'un axe de circulation, on voit ça régulièrement, hein, tôt le matin à Paris, des jeunes qui courent avec les écouteurs sur les oreilles, c'est pas un non-sens pour la santé? On court pour se faire du bien, mais finalement, on court... pour se faire du mal, professeur Rousset?
C'est pas une bonne idée de courir le long du périphérique. C'est-à-dire que quand vous prenez le périphérique, vous voyez qu'il y a beaucoup de stades hein, qui sont localisés près du périphérique, et donc des gens qui vont faire des efforts. Ceci étant, est-ce que pour autant il faut pas faire d'exercice physique? Donc il y a des études là-dessus, par exemple, qui ont comparé l'espérance de vie des cyclistes par rapport à des piétons et le rôle respectif de la pollution et de l'exercice. Vous gagnez l'espérance de vie en faisant de l'exercice physique, beaucoup plus que d'années perdues avec la pollution. Donc il faut faire l'exercice physique. Si on peut éviter de le faire au moment des pics de pollution ou le long d'un axe à forte circulation, c'est mieux.
Alors, préoccupation constante chez nos auditeurs, cette histoire d'air intérieur avec les habitudes de vie. Première habitude de vie, c'est de se réunir autour du repas. Constant nous appelle de Kundu au Tchad. Bonjour Constant.
Bonjour.
Et vous aussi, ce qui vous préoccupe, c'est ce qui se passe dans la cuisine.
Oui, oui. Ici, chez nous, généralement, la principale ressource énergétique pour les cuisines, ce sont les bois de chauffe. Et dans les cuisines, il n'y a aucun dispositif de canalisation des fumées et ces femmes qui préparent la fonte là exposées. Alors, je me demande, est-ce qu'il y aura des risques à long terme pour celles-là qui sont là exposées? Et de deux, il y a aussi une de mes nièces qui a une détresse respiratoire et à chaque temps où elle entre dans les cuisines, elle s'asphyxie à seule. Alors, cela me préoccupe un peu.
Professeur Bruno, ces détresses respiratoires au contact de ces fumées, c'est quelque chose de préoccupant.
Ça fait penser plutôt à une crise d'asthme sévère au contact de ces poussières. Mmh. Et donc effectivement, c'est une vraie préoccupation que cette cuisine et ces feux ouverts dans les maisons. Mais c'est peut-être...
Oui. Professeur Kayembe.
Oui, je dois avouer que la plupart de cases dans lesquelles se fait la cuisine dans nos villages, c'est des cases qui ne sont pas bien aérées du tout. Mais on a une alternative, c'est la cuisson en plein air. Celle en plein air expose quand même moins à la concentration de particules qui peuvent gêner. Comme dit le professeur Rousset, là, ça nous fait plutôt penser à une crise d'asthme. Mais il faut lui éviter le plus possible de s'exposer et ne pas la priver de nourriture à cause de ça. On peut la nourrir, même si d'autres ont préparé à sa place.
Pour visualiser cette cuisine, ça veut dire que ce sont des cuisinières où il n'y a pas de cheminée.
Absolument. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas suffisamment d'aération. C'est le problème général, quoi.
Alors, ces polluants liés à l'activité humaine, on a parlé bien sûr de ce qui se passe en ville, l'industrie, circulation routière, il y a aussi l'agriculture qui génère une certaine pollution, ce secteur de l'industrie. Et puis, il y a les conditions climatiques, professeur Bruno Housset. Il y a certains moments de la journée, certaines saisons où respirer est plus compliqué que d'autres.
D'une façon globale, le réchauffement climatique va être est à l'origine, parce que c'est en train de se passer. Faut pas utiliser le futur, c'est quelque chose d'actuel. Est à l'origine d'une augmentation de l'exposition à l'ozone, par exemple. Quand on a plus de journées ensoleillées, vous avez plus de réactions entre les dérivés d'oxygène et de l'azote, qui sont en général issus du trafic automobile, et les composés organiques volatiles, pour former de l'ozone. Et on sait que l'ozone est à l'origine d'un certain nombre de décès, beaucoup moins que pour les particules, mais c'est quand même quelque chose de toxique.
Ces jours-là en particulier, on entend notamment des organismes publics en région parisienne, pour ne pas le citer, Air Paris, donner des alertes, et la mairie, éventuellement, la mairie de Paris, promouvoir la circulation alternée sur décision préfectorale. Il y a quand même des décisions des pouvoirs publics concrètes, des décisions concrètes pour limiter l'exposition de la population, professeur Rousset.
Ah, tout à fait, il y a des incitations. Il y a encore eu un sur le blog de Nicolas Hulot il y a quelques jours, effectivement.
Le ministre français de l'Environnement.
Il y a eu des recommandations sur des incitations, en fait, pour ne pas prendre sa voiture, pour prendre une voiture électrique, pour utiliser le transport en commun. Il y a beaucoup, pour utiliser aussi la combustion du bois, pour réduire la combustion du bois de chauffage.
Avec toute la réflexion aussi sur les moteurs automobiles et moteurs diesel en particulier.
Absolument. Alors ça, il y a un bémol quand même, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on ne voit plus de fumée noire, comme c'était évoqué à un moment donné, que les moteurs ne sont plus polluants. Et actuellement, la motorisation aboutit à des particules qui sont plus petites, qui sont nombreuses, et en fait, l'importance des particules, c'est leur surface de contact. C'est là où je vous disais tout à l'heure que exprimer la pollution en microgrammes par mètre cube, c'est quelque chose qui va être banni dans les années qui viennent. Parce que ce qui est important, c'est la surface de contact de ces particules. Et plus elles sont petites, plus elles sont nombreuses et plus la surface est importante. Et donc, c'est pas parce que les véhicules sont neufs qu'ils ne sont pas polluants. Il n'y a pas de moteur propre. C'est ça qu'il faut retenir.
Peut-être demain un moteur à eau, on ne sait jamais.
Ah, hydrogène, mais il faut produire l'hydrogène liquide et ça, la production d'hydrogène liquide est associée aussi.
En tout cas, il y a des réponses politiques qui sont attendues, il y a des groupes qui se forment. Je voulais parler du GUAPO, consortium des grandes métropoles mondiales. Ça veut dire que les grandes villes se réunissent parce que certaines décisions peut-être ne sont pas prises au niveau des États, ou je me trompe?
Ça change un petit peu, effectivement. C'est qu'effectivement, maintenant, on se rend compte que les édiles, les maires des grandes villes villes, des métropoles ont un rôle à jouer important sur la circulation, sur la pollution. Et donc, ils prennent, il y en a qui prennent des décisions et qui expérimentent des situations, par exemple, de restriction automobile. Et en fait, l'idée, c'est de partager ces différentes expérimentations. Et la Fondation du Souffle fait partie du GUAPO parce qu'on veut insister sur les conséquences sanitaires, en fait, de la pollution urbaine.
Une action militante, professeur Jean-Marie Kayembe, vous lirez agir.
Oui, il est important qu'également nos dirigeants dans les pays africains, les pays en développement, prennent la mesure de la participation, de la décision de ceux qui dirigent, des décideurs dans l'environnement, etc. Figurez-vous qu'à Kinshasa, il y a notamment des vieux véhicules qui assurent le transport en commun et que l'on appelle esprit de mort. C'est tout dire. Ces véhicules sont vieux de plusieurs années. Ils dégagent des particules de diesel n'importe où, n'importe comment. Mais vous comprenez, ils s'appellent même esprit de mort. Cette mort peut être lente, mais c'est une mort certaine. Donc il est important que les décideurs prennent la mesure et qu'ils participent à des décisions aussi importantes que comme COP21, etc.
Parce qu'il y a des secteurs sur lesquels ils peuvent agir concrètement, professeur Kayembe, le transport public en l'occurrence.
Exactement.
Et le point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, il y a des lobbies qui existent, notamment les lobbies de l'industrie automobile, qui vont lutter, et se sont rendus compte qu'en fait, il y avait bien sûr les décideurs, les politiques, mais aussi les édiles qui peuvent jouer un rôle important dans les grandes villes. Et donc, on a vu changer un petit peu la position de ces lobbies à cet égard.
Alors, on ne parle pas de situation exceptionnelle. Quand on parle de pollution, c'est sûr que ça revient régulièrement dans l'actualité avec ces alertes. Mais en 2016, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a jugé que 92% de la population mondiale respirait un air extérieur trop pollué. On pense bien sûr aux grandes villes dans le monde industrialisé, mais ça vaut aussi pour le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique particulièrement touchée, professeur Jean-Marie Kayembe, vous citez le cas de Kinshasa, mais il y a de nombreuses autres grandes métropoles. Absolument. Où l'air est complètement irrespirable. On doit Absolument. Penser forcément à des villes comme Lagos,
Delhi
en Inde.
Oui,
des villes absolues, oui, avec des pics, là on peut dire carrément la population incitée à rester chez elle. Même chose en Chine, des épisodes de pollution épouvantables du côté de Pékin, là où ça peut même avoir des conséquences directes, on va dire sur la santé publique. Les écoles sont fermées, sur l'éducation, sur l'industrie. Pour le cas, tout à l'heure vous alertiez sur l'action, voire la passivité des pouvoirs publics en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une véritable réflexion, par exemple, qui s'est amorcée depuis la COP21, professeur Kayembe?
Oui, je suis convaincu. Même lorsqu'on regarde la participation des dirigeants africains à COP21, elle est minime. Mais je pense qu'il y a des questions importantes de santé publique auxquelles, s'ils veulent protéger les populations, ils doivent absolument s'inscrire et participer. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est la médecine personnalisée, on va vers là. Mais en Afrique, nous avons encore beaucoup de place pour la médecine communautaire, qui est celle qui doit protéger le plus grand nombre, compte tenu de l'accessibilité aux soins, qui reste quand même encore et toujours un problème.
Et l'OMS a approuvé en mai 2016, professeur Bruno Housset, une nouvelle feuille de route pour une action mondiale renforcée face aux effets néfastes de cette pollution de l'air sur la santé. Est-ce que vous savez aujourd'hui où en est ce plan de 2016 ?
Écoutez, ça progresse de façon extrêmement lente, je dirais, mais il y a une prise de conscience de nos autorités sur le sujet, et j'ai l'impression que c'est en train de bouger, et qu'effectivement ça va changer. Ceci étant, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, on a de quoi être inquiet sur, d'une façon générale, la pollution et les conséquences aussi, le réchauffement climatique. Donc il faut vraiment qu'il y ait un accord de tout le monde et un investissement. Vous savez qu'il n'y a pas de relation de dose-effet, hein. Sur pollution santé. On sait que la plus petite pollution, ça va quand même avoir des effets sur la santé respiratoire. Et donc, tout est une négociation, en fait. Hein. C'est une négociation entre l'investissement qu'il faut faire pour diminuer la pollution. Et les seuils de pollution, ceux qui vont être utilisés pour dire, ben voilà, on dépasse le seuil, sont l'objet d'une négociation politique, avec un fort pouvoir des lobbies dont je parlais tout à l'heure.
Professeur Jean-Marie Kayembe, ce sera ma dernière question. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. Vous enseignez la pneumologie, les maladies professionnelles. Est-ce que ce dossier santé-environnement, c'est un sujet de préoccupation pour la jeune génération ?
Oui, ça l'est, je dois le confirmer, et nous devons d'ailleurs nous inscrire dans le développement de plus en plus de la médecine du travail. La santé au travail est une préoccupation. Figurez-vous que dans toute la ville de Kinshasa, nous avons 2, ou si je ne me trompe pas, 3 médecins de travail. Mais c'est énorme pour un pays de plus de 70 millions d'habitants. Je pense que la médecine du travail, avec, des personnes qui attirent l'attention, qui informent, le développement des services de météo qui ne vous racontent pas qu'il a plu il y a une semaine, mais qui vous diront la prochaine pluie risque d'être dangereuse, c'est dans deux mois, etc.
De la vraie information.
Effectivement.
Et vous, professeur Bruno, ces nouvelles générations qui arrivent aussi, qui a véritablement conscience des enjeux de l'environnement sur la santé, est-ce que c'est quelque chose qui change selon vous ?
Ça bouge, je pense. Hein. Je suis responsable d'un enseignement sur environnement santé à la fac et je peux vous dire que les étudiants sont présents et intéressés. Donc je pense que ça va bouger. Il faut vraiment comprendre, on a parlé des autorités qui doivent avoir une action, c'est aussi une action citoyenne. C'est-à-dire que chacun doit avoir conscience et faire des efforts pour ça. Juste un exemple. Vous prenez des gens qui prennent des dispositifs d'inhalation, des médicaments inhalés. Ces dispositifs, il y en a à peu près 100 millions d'unités en France par an. Et si jamais ils sont pas incinérés dans de bonnes conditions, si vous vous mettez pas dans le bon endroit en termes de tri des déchets, vous allez polluer. Et donc, c'est vraiment
des gestes
détails,
citoyens.
C'est des gestes citoyens et des gestes. Et donc, il faut rapporter son dispositif vide au pharmacien, et le pharmacien a un circuit pour que ce soit incinéré aux bonnes températures.
Et ça, c'est très concret. Voilà, cet échange touche à sa fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Professeur Bruno Housset, président de la Fondation du Souffle, chef du service de pneumologie au CHI de Créteil dans le Val-de-Marne. Et à vous, professeur Jean-Marie Kayembe, chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa et doyen de la faculté de médecine, toujours dans cette capitale de la République démocratique du Congo également. Professeur de pneumologie respiratoire et maladies professionnelles. Comme chaque mercredi, votre rendez-vous avec le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour Jean-Marc Sen.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Dans Priorité Santé, vous nous vantez régulièrement les bienfaits de l'activité physique et sportive pour la santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui peut être très utile. Ce sport, c'est le judo. Alors, comment ce sport de combat peut-il justement être un atout pour la santé des unes et des autres ?
Eh bien, absolument, Caroline. Le judo peut être utile. Il faut simplement qu'il soit adapté à celui qui le pratique. Alors, vous savez, judo, ça signifie la voie de la souplesse, de l'adaptation. Et donc, il peut tout à fait se faire dans un cadre d'activité sportive santé. Hein, les gestes vont être choisis, en fait, en fonction du niveau du pratiquant. Et tout cela va très bien se placer. Alors, l'activité, en fait, c'est un sport de préhension, comme on le sait. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de recherche de chaos. Et c'est une pratique qui se fait dans un lieu qu'on appelle un dojo, où ça peut se faire aussi en salle de sport ou même en institution pour les personnes âgées. On porte pour cela une tenue spécifique qu'on appelle le judogi, hein, avec sa ceinture, hein, pour pouvoir pratiquer. Et puis ça se pratique pieds nus, hein, et tout public en fait peut pratiquer le judo en fonction de la classe d'âge. Ça va du baby judo, c'est-à-dire des tout jeunes, jusqu'aux seniors, autant les hommes que les femmes. Ça peut se faire de manière en duo ou de manière très collective. Donc, finalement, la pratique est très diverse.
Alors voilà pour la présentation générale. Hein, le judo peut s'adapter en fonction de l'état de santé des personnes. Quels sont les bénéfices possibles pour la santé de ceux qui le pratiquent ?
Eh bien, il y en a de nombreuses, hein, Caroline. Il y a d'abord, pour les personnes inactives, les bénéfices sont majorés, par exemple, pour l'équilibre. Hein, on développe sa capacité d'équilibre, sa coordination motrice. On développe également sa masse et sa force musculaire. On a une meilleure souplesse et une meilleure mobilité articulaire. Donc, beaucoup de choses positives. Et puis, on peut dire que sur le plan social, il y a un brassage social important. Hein. Et puis, il y a une notion importante aussi qu'on appelle le code moral et qui est pas mal, surtout quand on a des petits troubles du comportement. Et puis, la notion vraiment de respect mutuel entre les combattants. Les personnes en surpoids ou obèses, là aussi, peuvent avoir une valorisation et notamment de l'image corporelle. Et puis, ça peut s'adresser aux seniors, comme on l'a dit un petit peu avant. Et là, c'est superbe pour pouvoir faire un travail de la sécurisation de la chute. On va renforcer sur le plan musculaire, on va travailler l'équilibre, on va faire une sollicitation sensitive, hein, parce qu'on travaillera les pieds nus. Et puis surtout, on pourra apprendre à la personne à se relever justement en cas de chute. Donc ça, pour le senior, c'est quelque chose également de formidable.
Et peut-être justement pour ces cas particuliers encore plus, il faut être très attentif, prendre des précautions pour prévenir les accidents.
Et absolument, Caroline. Alors, le fait que ce soit une discipline qui soit adaptable, eh bien, justement, ça va permettre de prévenir les risques. Alors, pour les personnes qui sont porteuses d'une pathologie chronique, hein, le médecin vraiment va devoir délivrer une sorte de prescription et donner des préconisations assez précises. Il devra bien évaluer les déficiences et incapacités de l'individu sur le plan locomoteur, cardiovasculaire, cutané, sur l'équilibre, bien sûr, et déterminer comme ça les précautions qui seront à prendre. Est-ce qu'il pourra faire des chutes ou pas, être en opposition ou pas, faire un effort intensif ou pas, et puis les éléments à surveiller, notamment s'il y a des déficiences importantes. Le professeur, lui, de judo, fera des tests simples pour connaître les capacités de chacun, et puis adapter la pratique et former des petits groupes qui de niveau, hein, pour que les choses se passent très bien. Pas des séances, il faudrait que les séances dépassent pas 1 à 2 heures et au moins 1 à 2 séances minimum par semaine pour pouvoir un petit peu s'adapter. Mais en pratiquant de la sorte, hein, il est tout à fait possible d'exercer le judo de 7 à 77 ans en toute sécurité et avec un maximum de bénéfices pour sa santé.
Merci docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et justement médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu. Demain dans Priorité Santé, on parlera de l'épilepsie. Si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75. Et vous pouvez nous réécouter sur notre site internet, rubrique émission, rfi.fr. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.